Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, on va partager ensemble sur un sujet dont la Bible ne rentre pas trop en profondeur. On sait que ces choses-là, elles sont là. On sait que, par exemple, dans la Bible traite de beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes, avec de la précision. Mais concernant ce sujet-là, que on va traiter, la Bible reste, vague, pour pas que nous en sachions vraiment plus, mais avec ce que nous dit la parole de Dieu, c'est simplement suffisant. Ce thème, c'est finalement en route vers le ciel. Alléluia. Est-ce que vous êtes au courant que vous êtes en route vers le ciel? Amen. Ça va réjouir notre cœur. Et vous savez que quand on a la responsabilité d'apporter la parole, on dit, Seigneur, voilà, est-ce que c'est réellement la pensée que tu veux partager? Ce matin, je l'ai notamment entendu dans ce qu'a partagé Vincent. Par rapport au Seigneur, sa venue, et puis également dans sa louange, donc Jonathan qui a prié dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'il y a cette espérance dans notre cœur que nous allons nous retrouver là-haut, et ça réjouit notre cœur. Mais on voit que dans la parole, le Seigneur nous a donné juste quelques informations, mais il ne rentre pas en profondeur. Et je crois que pour chacun d'entre nous, ce matin, si on s'entretenait davantage que nous sommes en route vers le ciel, il y aurait davantage de joie dans nos cœurs. Parce que, en fait, c'est une espérance que le Seigneur dépose en chacun d'entre nous, et c'est vraiment merveilleux. Pour cela, on va lire un passage où le Seigneur va en parler, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 1er. Vous connaissez ces versets qui sont remarquables. Jean 14, 1er. Il va leur annoncer quelque chose de merveilleux. Jésus a parlé donc aux 12. Il va quitter cette terre. Et donc, il ne s'embarrasse pas de futilité. Il est en train de leur dire vraiment des choses fondamentales, tellement précieuses et importantes. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alléluia. Alors ici, Thomas, il se pose des questions. Et c'est bien qu'il se soit posé cette question parce que Jésus va amener une précision supplémentaire. Thomas va dire... Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Verset 6, alléluia. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, ou en passant par moi, ou en croyant en moi, ou en m'acceptant. » Alléluia. C'est la seule condition pour se retrouver au ciel. Alors, ce matin, des fois, je vais parler du ciel, je vais parler du paradis. On va voir ensemble. Et alors, il y a quelqu'un, un certain poète français, qui a écrit une chanson et qui a dit qu'on ira tous au paradis. Pas certain. C'est pas certain. C'est même pas vrai. On ira au paradis, tous ceux et celles vont se retrouver au paradis, ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur et qui l'ont fait Seigneur et Sauveur. Alléluia. Donc il y a beaucoup de questionnements concernant le ciel. Par exemple, j'ai noté quelques questions. Est-ce que nous allons nous reconnaître au ciel? Est-ce que je vais reconnaître mon frère Jérôme? On va se retrouver là. Alléluia, on est arrivé. Est-ce que ça va se passer comme ça? Point d'interrogation. Allons-nous au ciel immédiatement après la mort? Est-ce qu'il y a un endroit où le Seigneur va nous mettre comme une salle d'attente en attendant ce jour-là? L'éternité est-elle un temps qui s'écoule sans fin? Question. Ou une absence de temps? Qu'allons-nous faire au ciel? Parce que souvent on dit, on va louer le Seigneur. Bon, la réunion de louange risque de durer un peu. Qu'allons-nous faire au ciel? Avec quel corps vivrons-nous au ciel? Certains vont dire, J'aimerais m'en débarrasser une bonne fois pour toutes de ce corps qu'il a. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs questions, évidemment. Alors, nous devons savoir qu'il y a des choses importantes. C'est que nous-mêmes, nous sommes limités. Quand on parle, par exemple, comprendre réellement comment fonctionne la Trinité. Qui peut l'expliquer, hein? On met un tableau, et voilà la Trinité, comment ça fonctionne. On peut avoir quelques idées un peu larges, mais finalement, la révélation concrète de la Trinité, difficile à expliquer, mais tellement bon à vivre. C'est ça, hein? Comprendre l'élection et la prédestination. Savoir que Dieu nous a aimés et qu'il pensait à nous avant la fondation du monde. Nous avons été élus. Vous savez ce que ça veut dire, hein, élu. Ça veut dire qu'à un moment donné, le Seigneur a voté pour nous. Je te veux dans mon équipe. C'est ça, en fait. Il nous a choisis. Mais alors, du coup, comment l'expliquer? Et d'ailleurs, dans certaines dénominations, voilà, la question, elle est là. On se pose beaucoup de questions. Alors, si le Seigneur... parce que certains pensent comme ça, hein, notamment dans certaines dénominations. C'est la pensée calviniste. C'est-à-dire que si le Seigneur nous a élus, il en a élu certains pour la vie éternelle, ça sous-entend alors qu'il en a élu d'autres pour aller en enfer. C'est ça la pensée calviniste. Alors, le souci avec tout ça, c'est que voilà, la pensée calviniste, également, elle met l'accent sur le fait que une fois sauvé, toujours sauvé. On ne perd pas le salut. Alors nous, on pourrait se dire, mais alors, où se situer? Justement, la Bible, elle ne tranche pas réellement. Elle enseigne les deux. Alors, l'expliquer, c'est vraiment difficile. Du coup, élection, prédestination, parce que nous sommes des êtres rationnels, hein, on a besoin de comprendre et de voir certaines choses, mais il y a bien des choses qui nous dépassent. Et notamment, concernant donc l'éternité, concernant le ciel, il y a des choses qui nous dépassent. On a juste besoin de savoir si nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Pour rappeler cette fameuse histoire où le Seigneur va envoyer les disciples. Et quand ils vont revenir, ils sont dans la joie. Ils disent, mais c'est extraordinaire en fait. On est en train de faire ton œuvre. Et même les démons nous sont soumis. Alors j'imagine les délivrances qu'il y a pu avoir. Ils priaient, il se passait des choses voilà, qui bouleversaient peut-être les gens qui étaient autour, sûrement même. Donc des choses extraordinaires. Puis le Seigneur, il va remettre les choses en place. Il dit, réjouissez-vous plutôt que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Amen. Alors ce que fait le Seigneur concernant notre nom, c'est-à-dire que notre nom, il est inscrit. Et puis, voilà, il ne va pas l'enlever à chaque fois qu'on fait quelque chose de travers. Dire, bon, là, il n'a pas été à la hauteur. Vite, la gomme, ou un coup de blanc, puis on efface son nom. Et puis, s'il fait quelques œuvres, s'il revient, on remet son nom. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'il y a des choses qui nous dépassent. Nous avons simplement à le croire. Et puis, le Saint-Esprit est là pour les déposer au fond de notre cœur. Ce matin, on discutait avec Marc-Henri, on se disait, comment expliquer l'espérance, la certitude de ces choses-là? C'est difficile avec des mots. Hein. Mais simplement, on le sait, c'est au fond de nous, et on vit en conséquence. C'est pour ça que le chrétien est heureux. Ça ne sous-entend pas qu'on a plus de problèmes. Hein. On en a comme les autres. Également, hier, je disais à quelqu'un, à une certaine époque, je considérais mon pasteur comme quelqu'un connecté, dès qu'il s'est levé le matin, il était connecté au Seigneur, voilà, les anges venaient le réveiller, ça va, t'as passé une bonne nuit, et puis là, on était là, le pasteur était connecté, jusqu'à ce que je devienne pasteur, et que j'apprenne que c'est pas tout à fait comme ça, en fait. Alors, je veux dire, voilà, sous forme humoristique, que finalement, on est tous pareils. logés à la même enseigne, avec des tentations qui sont là, des occasions de chuter, des occasions également de prouver à Dieu qu'on l'aime, hein, qu'il est au centre de nos vies. Mais voilà, on s'aperçoit qu'également, nous sommes bien limités concernant certaines choses. Par exemple, hein, on a parlé de l'élection, de la prédestination, comprendre l'amour de Dieu. Nous, on peut comprendre l'amour dans la mesure où nous, on s'identifie à cet amour. Je peux aimer jusqu'à là. Au-dessus, ben c'est, au-delà de tout ça, c'est au-dessus de mes forces. L'amour de Dieu est tellement puissant, tellement grand, tellement merveilleux. Et ça a été dit à un moment donné, dans Luc 23, ce brigand, il n'avait absolument rien fait pour mériter le ciel. Rien du tout, au contraire. Mais il a eu un moment de lucidité, un moment où il a reconnu, au fond de son cœur, qu'il n'était pas dans le bon sens. Et puis, il va faire cette prière, et puis le Seigneur, il va l'exaucer. Comprendre le pardon de Dieu. Comprendre la grâce de Dieu. Et puis, trois points, et encore, et encore. Finalement, on ne peut pas comprendre Dieu si dans la mesure où lui se révèle à chacun d'entre nous. Alors, il existe des choses que nous comprendrons jamais sur terre. Jamais. Et c'est là, en fait, ça se complique pour nous, parce que nous, on veut tout expliquer. Surtout, retenez bien ça ce matin, si la Bible nous donne une perspective d'un certain thème, et que le Seigneur a prévu dans toute sa grâce de nous révéler que ça, n'allons jamais au-delà de la parole de Dieu. Parce que c'est là où on rajoute, voilà, à la parole de Dieu. Et vous savez que c'est quelque chose qui est quand même assez grave de rajouter à la parole de Dieu. Elle est suffisante pour tout, cette parole. Alors, sachons rester à notre place. Je ne sais pas si je vous ai raconté, je connaissais quelqu'un qui était omnibulé par comment va se passer le retour du Seigneur, avec l'Apocalypse, tout ça. Alors, je vous promets, quand j'allais le visiter, il fallait que je prévoie, voilà, peut-être une après-midi, il était omnibulé par ça, et puis il ne vivait pas le reste. Or, moi, mon rôle, c'était de dire, ok, le Seigneur, voilà, dans l'Apocalypse, il a prévu certaines choses, et puis finalement... Alors moi, je lui disais comme ça. On s'aperçoit par exemple que dans l'Apocalypse, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, il est en train de parler de l'Église. Et puis, donc à un moment donné, le Seigneur, il parle, il dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu le Père. Ensuite, il y a ces lettres adressées aux Églises. Et après, à partir du chapitre 4, commence l'enlèvement. Et moi, je disais, ben, tu sais, moi, la seule chose que je me préoccupe, c'est de faire partie du voyage. Après, comment ça va se passer, peu m'importe, en fait. Dans mon cœur, je veux tout faire, hein, on va le voir un peu comment, je veux mettre en place certaines choses dans ma vie pour faire partie de ce voyage. Alors certains vont dire, oui, mais il y en a un second. Alors ça, on ne le retrouve pas trop dans la Bible. Hein. Ce n'est pas pour les retardataires. Vous connaissez des personnes dans un groupe qui sont toujours en retard? Alors là, interdit de regarder votre voisin, voilà, surtout pas de... voilà, mais ça arrive. Là, il faudra être prêt. Il ne faut pas se préparer, être prêt pour ce fameux retour. Alléluia. Donc, comme je vous disais, il existe des choses que nous ne comprendrons jamais sur terre. 1 Corinthiens 13, 12, ce fameux chapitre de l'amour. Et où l'apôtre Paul, il a une révélation, il est en train de régler quelques problèmes au sujet des dons spirituels dans l'église de Corinthe. Donc, chapitre 12, il parle des dons spirituels. Et puis là, en plein milieu, il parle de l'amour. Ça a toujours un lien. L'exercice spirituel, des dons spirituels, c'est toujours motivé par l'amour du Seigneur. Et là, donc, 1 Corinthiens 13, verset 12, il dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. » Mais alors, nous verrons face à face. Est-ce qu'on imagine ça? Nous verrons face à face. Et il revient en disant, aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Alléluia. Et ça, nous devons l'accepter. Que finalement, la révélation, elle est comme voilée. on ne peut pas être plus sage que Dieu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas aller au-delà de la parole. Si le Seigneur, dans toute sa sagesse, a prévu de nous révéler que les choses qui sont dans la parole, n'allons jamais au-delà. Sachons rester dans les limites de nos capacités. Toutefois, si nous ne savons pas du tout certaines choses concernant donc cette route, on est en route vers le ciel, il y a des certitudes, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans le passage qu'on a lu, Jésus va parler du ciel, notamment en disant et en comparant le ciel à une maison. Le ciel est comparé tout d'abord à un jardin. On sait que lors de la crucifixion, un des deux brigands se convertit, Jésus lui dit, Luc 23, 43, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi, où ça ?» Dans le paradis. Et si vous allez dans l'étymologie du mot, dans son sens original, le mot paradis, c'est le mot jardin. Il n'y a pas comme une restitution de quelque chose, là, avec le péché dans ce jardin, où il y a eu cette séparation. Et donc, retrouver le paradis, c'est retrouver la présence du Seigneur. Donc, je te le dis, et c'est la promesse que le Seigneur lui a faite, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Ça, c'est extraordinaire. C'est un peu l'image de nos vies. Alors que dans nos vies, nous nous destinions, on était destinés à être perdus pour l'éternité. Et puis un jour, le Seigneur nous a arrêtés dans notre folie. De façon différente pour chacun. Pour certains, ça s'est fait en douceur, avec le temps. Vous connaissez une personne qui me disait, je ne peux pas dire quel jour j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça s'est fait progressivement, mais gloire à Dieu. D'autres, c'était dans l'urgence. D'autres, le Seigneur a interpellé en vivant une expérience de guérison, de libération. Et quand on est à la place à ma place, et quand on parle, on discute avec les frères et sœurs dans leurs témoignages, je suis toujours émerveillé. Il n'y a pas de petit témoignage. Un jour, une jeune me disait ça. C'était à Avignon, une jeune. Elle me disait... alors, elle passait par les eaux du baptême l'après-midi. Elle me disait, mais en fait, je n'ai pas un grand témoignage. Bon, il a fallu qu'on lui parle. Il n'y a pas de grand ou de petit témoignage. C'est le résultat. Tu es sauvé, tu as accepté Jésus-Christ. Une chose certaine, c'est que nous sommes tous des pécheurs, sauvés par grâce. Le moyen... Voilà le Seigneur, et il sait ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. Cet homme qui se destinait donc à passer l'éternité loin du Seigneur, un moment de lucidité, gloire à Dieu. Et par rapport à l'évangélisation, on prie pour ça, qu'il y ait des hommes et des femmes qui aient des moments de lucidité, afin de réaliser que s'ils ne rectifient pas certaines choses, ils sont perdus pour l'éternité. Et Dieu n'est pas résolu, parce qu'une seule personne se perde. Dieu veut sauver l'humanité tout entière. Mais si on est juste, si on réfléchit, on va vite s'apercevoir que c'est pas que Dieu ne veuille pas sauver certaines personnes, c'est que les hommes ne veulent pas. Ils auront toujours l'occasion de pouvoir se tourner vers Dieu. Mais ils ne l'acceptent pas. Les cœurs s'endurcissent. Et c'est pour ça que je vous disais de s'engager dans la prière, dans le jeûne et dans la prière, pour que les cœurs durs deviennent malléables. Comment expliquer ? Je vous donne mon exemple. Né dans une famille chrétienne, à un moment donné, donc, j'abandonne les choses de Dieu, j'endurcis mon cœur. Et puis, j'avais eu des fois, quelques soirées où je ne me sentais pas bien, des moments, un peu de lucidité. Ça serait bien que je revienne au Seigneur. Mais le lendemain, je recommençais dans la vie qui était la mienne. Mais comment expliquer qu'à un moment donné, j'ai eu cette révélation de Christ, parce que je crois de tout mon cœur qu'il y a eu les prières derrière. Et d'ailleurs, je me souviens, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui était là, qui était lui-même revenu au Seigneur. Il me dit, écoute, j'étais à la réunion de prière et on a prié pour toi. Ça m'avait ébranlé. Je vous promets, d'abord j'avais dit, mais de quel droit? Pourquoi? Et puis quelques temps après, parce qu'après j'ai remis toutes les choses dans l'ordre, je me suis dit, mais c'est sûrement à ce moment-là où les choses se sont manifestées, où la gloire du Seigneur, donc j'ai pu réaliser, rendez-vous compte, depuis j'avais 4 ans, où on m'a dit que Jésus était celui qui avait pris les péchés de l'humanité tout entière à la croix du calvaire. Je le savais tout ça. Et ce jour-là, à l'âge de 30 ans, je le réalisais et j'ai eu cette révélation. Et là, je découvrais, je me disais, mais c'était pour moi, en fait, cette croix. Et ça, ça a bouleversé ma vie. En fait. Parce que moi, je me reconnaissais pécheur. J'ai dit, Seigneur, je suis un pécheur, je ne suis pas digne de tout ça, de tout ce que tu me proposes. C'est comme le Seigneur me disait, mais c'est pour toi, je t'aime d'un amour éternel, j'ai attendu ce moment. Est-ce que tu m'acceptes? La douceur du Seigneur. Et là, j'ai enveloppé de l'amour et de la grâce du Seigneur qui m'a bouleversé. Je n'ai pas fait les choses pour essayer de mériter quelque chose de la part du Seigneur, mais c'était une évidence. Il y a des choses que je faisais qui étaient horribles. Évidemment, je ne pouvais plus les faire. Ce n'est pas que je me forçais. C'était quelque chose qui était au fond de mon cœur. C'est impossible que je puisse continuer de faire certaines choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très étonné quand certains ont de la difficulté à abandonner certaines choses. Parce que quand il y a la révélation de Christ, vous vous rappelez d'Ésaïe qui va avoir cette vision, chapitre 6. Il a cette vision glorieuse, les pans de la robe dans le temple, où le Seigneur est assis sur son trône. Première chose, premier réflexe, malheur à moi, car mes lèvres sont impures. C'est ce que procure la parole de Dieu. La parole de Dieu, là, dans un premier temps, elle va mettre l'accent sur ce qui ne va pas dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'il veut régler ce problème-là. Et ensuite, il nous accorde un moyen de pouvoir nous en sortir. Le moyen, il est déjà là, il est accessible, il est facile pour chacun d'entre nous ce matin. De pouvoir accepter le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur. Donc le paradis de Dieu, et c'est là où se trouve l'arbre de vie, c'est là où Dieu rassemblera tous ceux et celles qui l'auront accepté. Amen. La question elle est celle-ci. Êtes-vous prêts pour ce grand rassemblement? Il n'y a même pas eu un demi-amen. Et oui, parce que ça vient nous percuter. En fait, avec la nouvelle naissance vient l'assurance du salut. J'ai la certitude que ces choses-là, elles sont au fond de mon cœur. Regardez un autre passage dans l'Apocalypse, chapitre 22. Une fois que nous serons là-haut, regardez ce jardin extraordinaire. Verset 1er. Et il me montra un fleuve d'eau vive, limpide. Alors, et là, il faut ouvrir un peu, il faut avoir un peu d'imagination, il faut le voir. Il faut essayer de voir, d'imaginer ces choses-là. Comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Amen et amen. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous propose. Et dans ce passage que nous venons de lire, on voit toute la beauté de ce jardin merveilleux, trône de cristal. Il y a également les 12 fondations, les pierres, les symboliques qui est là. Un jour, sûrement, on en parlera également. Mais quelque chose de beau, de magnifique. On voit également, au travers de ce passage, la perfection de Dieu. Dieu est parfait. On voit la plénitude du bien-être. C'est ça, le ciel. Cette plénitude de bien-être. Aujourd'hui, vous avez remarqué, avec ces coups de téléphone intempestifs, régulièrement, on nous propose quelque chose pour nous relaxer, quelque chose qui vient d'être inventé, quelque chose de nouveau, afin que ça puisse nous apporter du bien-être. Et on s'aperçoit que dans les foires un peu partout, le salon du bien-être, ça grandit. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on a besoin de bien-être, c'est parce qu'il y a un mal-être. Et ce mal-être, il est dû de notre éloignement à Dieu. On a besoin de se rapprocher du Seigneur. Alors, on a vu que le ciel, le paradis est comparé à un jardin. Le ciel, c'est également une maison. On l'a lu dans Jean chapitre 14, verset 1er. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. On voit ici la sincérité du Seigneur. Hein. Si ces choses n'étaient pas, je vous promets, je vous l'aurais dit. Alors ici, il appuie pour dire que ces choses, elles sont véridiques. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Alléluia. Ce matin, mon frère, ma sœur, toi qui es là, est-ce que tu sais que tu as une maison au ciel? C'est ça en fait. Tu as une propriété au ciel que le Seigneur t'accorde. Alléluia. Et ça c'est merveilleux. Hein. Il y a plusieurs demeures. Le Seigneur est en train de nous préparer une maison. Depuis le temps qu'il nous prépare, parce qu'il y a plus de 2000 ans où il est parti, la maison elle doit être extraordinaire. Hein. C'est la présence de Dieu qu'il nous parle de tout cela. Le ciel est la maison du Père. Elle n'est pas en briques ou en béton. C'est une maison, on l'a vu, avec un jardin au ciel. Nous y sommes attendus avec impatience. Afin, vous vous rappelez, hein, cette image de franchir cette ligne d'arrivée en vainqueur. Et alors, c'est dans l'imagination, mais on peut concrètement peut-être voir que ça va se passer comme ça quand quelqu'un quitte cette terre. Et quand il se retrouve dans la présence du Seigneur, ben je veux bien croire, moi, qu'il y a des anges qui l'attendent. En disant, mais voilà, tu as réussi, tu es là. C'est là où, c'était là la volonté de Dieu pour toi et tu as réussi. Et ça, ça va pouvoir nous encourager encore et toujours face aux difficultés et aux épreuves que l'on peut traverser, les épreuves diverses. Et il y en a, on ne peut pas les négliger, elles sont là. Mais quand il y a cette espérance, il dit, Seigneur, je veux m'accrocher parce que le meilleur est devant moi. Certains vivent le départ ici-bas, vous savez, comme quelqu'un qui quitte une fête ou un bon repas trop tôt. Alors que le meilleur est encore à venir. Et le Seigneur, donc, il reste un peu évasif, mais il sait ce qu'il fait, le Seigneur, dans toute sa sagesse. Pour ne pas nous en dire plus que ce qu'il nous dit. Déjà, moi, je trouve que c'est pas mal. Avec tous les versets qu'on a lus, ça va pouvoir réjouir notre cœur. On sait que également le ciel, c'est la maison du Père et c'est son ouvrage. La Bible nous enseigne que ce n'est pas ici-bas que nous aurons une demeure permanente. C'est là-haut, Hébreux, chapitre 10, 13, verset 14. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui nous a été faite non avec une main d'homme. Alors il y a cette réponse, nous soupirons et désireux de résider dans notre domicile céleste. Alléluia. Alors, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, hein, je l'ai lu dans une autre version, mais nous cherchons celle qui est à venir. Alléluia. Quand il est dit de chercher, c'est pas de chercher comme ça au hasard. C'est de rechercher de tout notre cœur et de la garder au fond de nous. Amen. Alors, on voit que dans cette maison, pas besoin de repeindre les corniches ou les murs une fois de temps en temps pour rafraîchir. Pas besoin de remplacer les châssis. Pas besoin de déboucher les égouts. Dans cette demeure éternelle, nous n'aurons jamais à déménager. Et nous, avec Henriette, on dit, ouf, amen. Eh oui, parce que ces derniers temps, on a pas mal déménagé. Une demeure permanente. Le ciel, dans cette maison qui nous est dépeinte, c'est une maison qui est magnifique. Apocalypse 21, 10 et 11 nous décrit la nouvelle Jérusalem. Pour nous convaincre. Regardez l'expérience qu'a vécue ici l'apôtre Jean. Il est en train de révéler certaines choses. Donc il y a Révélation, Apocalypse. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte Jérusalem, qui descendait du ciel, où ça, d'auprès de Dieu. ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre, alors pas précieuse, très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Ici, évidemment, il y a toute une symbolique qui est là. Et pour nous, c'est là où on a des difficultés à interpréter un peu l'Apocalypse, parce que des fois, c'est littéraire, des fois, c'est imagé. Mais ici, on peut prendre cette image, par exemple, jaspe, précieuse, cristal, limpidité. Ça nous parle de la pureté. Il n'y a rien d'impur qui va se retrouver au ciel, évidemment. Et pour être purifié, il n'y a qu'une seule chose qui puisse enlever la noirceur de notre péché. C'est le sang de Jésus-Christ, alléluia, qui nous lave et qui nous purifie de tout péché, alléluia. Oui, que de beauté déjà, ici-bas, sur terre. On s'est toujours, à un moment donné, émerveillé. Je suis sûr qu'on a tous les mêmes réactions. Après un orage, quand il y a un arc-en-ciel, on bénit Dieu. Hein. Et Seigneur, cette beauté qui est là. Il y a des choses magnifiques ici-bas, sur terre. Bon, après, l'être humain, hein, il se préoccupe de mettre un peu le bazar partout où il passe. Mais il y a tant de choses qui nous émerveillent. Mais la perfection du ciel est une chose qui est assurée. C'est notre Dieu est un Dieu de beauté. Notre Dieu, c'est un poète, un artiste. Et oui, hein, c'est ça, hein, le Seigneur. Parce qu'il faut quand même une fibre artistique pour vous avoir créé. Parce que vous êtes des créatures merveilleuse. Alléluia, merci Jérôme. Eh oui, c'est la réalité. Ce n'est pas avec esprit de supériorité qu'on dit ça. Si c'est le Seigneur qui dit ça de nous, alors nous devons le vivre. Je suis une créature merveilleuse. J'espère que ce matin, c'est ce que vous êtes dit. Je suis une créature merveilleuse. On a du mal avec cette prière. Eh oui. D'ailleurs, il va le dire, le psalmiste. Je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Je l'ai rarement entendu dans un temps de louange. Seigneur, je te loue. Mais ça, je sais parce qu'on est modeste. Que le Seigneur nous aide vraiment à réaliser. Hein, comprenez ce qu'on est en train de dire. La beauté du Seigneur. Et ces choses-là, eh bien, il faut qu'elles trouvent le reflet dans nos vies. Amen. Le ciel, on a vu que c'était une maison, un jardin, une maison. C'est également une maison heureuse, où il y a de la joie. Alléluia. Regardez la parabole de Luc 15. La parabole de Luc 15, il y a tout d'abord une brebis qui est perdue. Il y a toujours ce même schéma dans les trois histoires, les trois paraboles. Il y a une brebis qui est perdue, une pièce qui est perdue et un fils qui est perdu. Et en fait, le schéma, c'est perdu, retrouvé et joie. Perdu, retrouvé, joie. Il y a toujours de la joie dans la présence du Seigneur. Et c'est ce que enseigne évidemment Luc 15, où il dit « Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. » Alors nous, on a du mal des fois avec la joie. J'ai connu des personnes qui avaient même de la difficulté à sourire. Ou sourire, c'était comme quelque chose de forcé. Et c'est terrible, hein. Bon, après, j'ai connu d'autres personnes aussi, on avait du mal à les arrêter quand ils commençaient à rire. Hein. En fait, l'équilibre, tout ça pourquoi? Parce qu'il y a une joie dans notre cœur. Moi, j'ai envie de dire, on a assez pleuré. Avant de connaître le Seigneur, on pleurait. Mais le Seigneur s'est révélé à nous, le meilleur est devant nous. On a une perspective d'avenir, une perspective d'éternité avec le Seigneur. Alors ça réjouit notre cœur. Et on est dans la joie. Alléluia. Amen. Psaume 16, verset 11 nous dit... Non seulement il y a de la joie dans la présence de notre Seigneur, mais il y a d'abondantes joies devant ta face. Des délices éternels à ta droite. La droite, c'est l'autorité. L'autorité du Seigneur. D'abondantes joies. Que nous puissions déborder de joie. Je l'ai dit tout à l'heure, on a tous logé à la même enseigne. Des problèmes, des difficultés. Il y a ceci, il y a cela. Mais quand même, au fond de notre cœur, la joie, il faut qu'elle demeure. Et pour que cette joie, elle demeure, Il faut que nos yeux spirituels se dirigent dans une direction. Quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Alléluia. Une personne qui rayonne de joie, ça a de la valeur. Et vous avez remarqué que c'est contagieux. Quelqu'un qui est dans la joie, puis c'est contagieux. Et nous, ce que nous voulons, c'est contaminer le monde, pas de notre joie préfabriquée, nous-mêmes, mais la joie du Seigneur. D'ailleurs, dans Néhémie, il est dit, « La joie du Seigneur sera votre force et votre force. » Alléluia. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu triste et ennuyeux, comme le monde a bien voulu nous faire croire. Un Dieu qui est loin, qui ne s'occupe pas de nous. Quand on lit la parole, on s'aperçoit que finalement, c'est un Dieu qui est proche de nous. Il s'est rapproché de nous. Il n'est pas ennuyeux. Le ciel est une maison heureuse parce que Dieu y rassemble tous ceux qui se sont repentis et qui ont mis leur foi en Dieu et en Jésus-Christ. Amen. Dans le ciel, rien ne viendra entacher notre joie. Cette joie, elle va demeurer. Ici, on s'aperçoit, des fois, on est dans des moments de joie, puis on sort, puis on reprend le cours de la vie, puis le téléphone sonne, une mauvaise nouvelle, et puis voilà, ces choses sont là, et il y a des voleurs de joie. Il faut qu'on puisse protéger cette joie, évidemment. Quand on parle de joie, et que le ciel, le paradis, sera une maison de bonheur, parce que là seront réunis tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Les parents, les grands-parents, amis, certains pasteurs qui nous ont devancés. On pourra avoir des discussions personnelles avec Moïse, Élie, Ésaïe, Jérémie, David. Alors, on se fera un plaisir d'aller les voir. Qu'est-ce que tu as voulu dire là? Ou alors, pourquoi tu as fait ça? Explique-moi. Alors, vous voyez la scène assis sur un rocher ou, je sais pas, ou flottant dans un nuage, je ne sais pas, en train de discuter. Parce qu'en fait, c'est l'image que l'on a du ciel. Mais une chose certaine, nous serons également étonnés de voir certaines personnes. Et là, encore une fois, ça, la Bible le dit, on sera étonnés de voir certaines personnes qui vont se retrouver là, où on n'aurait pas parié qu'elle soit là. Et puis également, on sera étonné de ne pas en voir d'autres. Apocalypse 21-27, on y revient. Il nous est dit qu'il n'entrera chez elle rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Ça, c'est le laisser-passer, le carton d'invitation. Vous vous rappelez la parabole où le Seigneur, il invite. Puis, il y en a qui refusent. En opposant à l'invitation du Seigneur, j'ai pas le temps, il faut que j'aille acheter ceci, il faut que j'aille faire cela. En fait, juste pour le résumer, préoccupé par les choses de la vie. Puis, on oppose au Seigneur, « Seigneur, j'ai pas le temps, je peux pas, j'ai ceci. » J'ai cela. Le Seigneur, il va dire, écoutez, ils ne veulent pas venir. Allez, voilà, par-delà, allez chercher tous ceux et celles qui finalement n'avaient pas reçu cette invitation. Ça nous parle évidemment de nous, le peuple. Voilà, il faut savoir que tout d'abord, le Seigneur est venu pour Israël et nous n'avions aucun droit de citer. Mais le Seigneur poursuivait encore un but derrière, c'est de pouvoir toucher les païens. C'était nous les païens. Les païens, donc c'était chacun d'entre nous. Alors un jour, nous quitterons tout sur cette terre pour aller au ciel. Serez-vous des nôtres? Serez-vous de la partie? Alors ça fait très solennel comme ça, mais c'est des questions que l'on doit se poser. Afin peut-être de recentrer nos priorités, afin de se focaliser sur les choses importantes. Je conclus avec quelques points, quelques conditions pour entrer dans ce ciel. Première des conditions, il faut être né de nouveau. Quand le Seigneur Jésus va le dire à Nicodème, il ne comprend pas lui, parce qu'il raisonne humainement. Il dit, comment c'est possible à mon âge de revenir dans le sein de ma mère? Mais c'est impossible, il avait raison. Hein. Le Seigneur va le reprendre, mais non. C'est quelque chose qui vient d'en haut, qui vient du ciel, cette nouvelle naissance, Jean 3:3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir quoi? Le royaume de Dieu. L'importance de cette nouvelle naissance. La condition pour entrer dans le royaume, de l'humilité. Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est ce qui procure la joie, c'est que nous héritons du royaume. Et pour cela, il faut de l'humilité. Les pauvres, tous ceux qui sont humbles, humbles de cœur, comme le Seigneur. La condition pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut de la persévérance. Luc 9, 62. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Vous savez ce qui est arrivé à une personne, un personnage dans la ville qui a regardé en arrière. Regardons devant. Toujours devant. Vous connaissez la devise des Catalans, les PO 66. Alors je vais le dire dans l'original. Sempre andavant, mai morirem. Toujours devant et on ne mourira, on ne meurt jamais. C'est ça, c'est la devise des Catalans. C'est la devise des Catalans. Je trouve que ça aurait pu faire un verset, ça. Et oui, toujours à regarder devant, alors on ne va pas mourir. Et pour cela, il faut persévérer. Il faut également non seulement persévérer, mais avoir de l'endurance. C'est la condition. Acte 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors ça, c'est la partie, peut-être, qu'on dit, Seigneur, c'est sûr? Est-ce qu'on peut éviter? Alors le Seigneur, il dit, non, en fait, pour persévérer dans la foi, on va passer par diverses tribulations, on va rentrer par là, et pour cela, ça va nous rendre endurants. On ne court pas pareil un 100 mètres et un marathon. Et nous savons que nous nous sommes engagés dans une course, c'est le marathon, hein, le temps de courir, le marathon. Et là, il y a besoin d'endurance. On a tous connu des personnes qui ont fait une belle déclaration, qui ont fait un bon départ de 100 mètres. Et puis, quelques temps après, on ne les a plus revus, parce qu'il manquait d'endurance. C'est la condition pour se retrouver au ciel. Et puis le dernier, tout d'abord, se retrouver devant le Seigneur, parce que c'est un choix solennel de Dieu. Jacques, chapitre 2, verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, on rajoute les sœurs, évidemment. Hein. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Alléluia. Ayant de telles promesses, nous avons de quoi nous réjouir, ne pas avoir peur de ce qui va se passer quand on va fermer les yeux ici-bas, mais au contraire, persévérer, aller de l'avant, et que nos cœurs se réjouissent dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Merci encore pour ta parole. Ta parole, elle est bonne pour nos cœurs, elle est bonne pour nos vies. Je veux louer et glorifier ton nom encore, parce que, Seigneur mon Dieu, nous sommes en route vers le ciel, nous sommes en route vers le paradis. Seigneur, nous avons partagé tout ce que toi, tu as voulu nous révéler dans ta parole concernant ce qui va se passer par la suite. Une chose est certaine, Seigneur mon Dieu, garde nos cœurs, garde nos vies. Seigneur, nous-mêmes, que nous puissions mettre des choses en place dans nos vies, Seigneur mon Dieu, afin de pouvoir persévérer. Nous voulons être de ceux et de celles qui sont endurants. Nous ne voulons pas nous essouffler, Seigneur, mais nous voulons constamment, Seigneur mon Dieu, être près de toi. Il y a, Seigneur, bien des choses qui sont là pour essayer de nous distraire, mais nous voulons nous focaliser, Seigneur, sur ce qui est primordial. C'est te voir, toi, face à face pour l'éternité et être dans ta présence. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance et l'autorité. Alléluia. Amen.